Développer l'amour bienveillant. Qu'est-ce que metta? Metta est un mot pali qui est le plus souvent traduit par amour bienveillant ou amitié bienveillante. Nous serons probablement tous d'accord que ce sont là des mots qui sonnent bien. Ces mots décrivent une émotion particulièrement pure et saine, un état d'esprit volontairement cultivé par les sages méditants. Toutefois, ces mots simples ne suffisent pas à décrire assez finement la puissance de ce qu'est metta ou le rôle vital que joue le fait de cultiver cette qualité dans le processus de purification de l'esprit. À première vue, cette qualité que nous appelons bonté pourrait sembler un peu fade ou insipide. Heureusement pour nous, dans sa grande sagesse, le Bouddha a mis l'accent sur cette qualité dans ses enseignements, afin que ses disciples ne fassent pas l'erreur d'en négliger le développement. Metta commence par une intention pure et devient une émotion saine et vertueuse. Par un entraînement continu, cette émotion pure de bonté devient finalement une concentration puissante. Cultiver ce type de concentration peut jouer un rôle extrêmement utile dans le processus de développement mental, parce qu'il encourage ce qui est bénéfique et habile et aide à se détourner de ce qui ne l'est pas. Pour vraiment comprendre cette qualité de cœur, nous devons mener un examen profond. Nous devons regarder à partir d'un lieu situé profondément en notre cœur. Nous pouvons aussi prendre en exemple ceux qui, dans le monde, ont cultivé cette qualité. En Thaïlande, certains moines sont très célèbres pour avoir développé particulièrement cette qualité de bonté. Certains de ces moines passent la majeure partie de la journée à recevoir des invités et à accepter les offrandes des fidèles. Je dirais que ça n'est pas pour eux-mêmes, mais plutôt dans le but d'encourager les autres. Le nombre de personnes qui font l'effort de rendre hommage à ces moines est étonnant, et tout spectateur pourra facilement observer que pour la plupart, les gens qui viennent à proximité de ces maîtres de méditation s'en retournent un sourire radieux aux lèvres, se sentant béni d'avoir simplement eu l'opportunité de rendre hommage et d'avoir reçu la bienveillance rayonnante de l'esprit de tels êtres. La bonté touche les gens très très profondément. Metta est à la fois belle et profonde. Elle est douce et pourtant extrêmement puissante. Elle est tendre et revêt un pouvoir de totale transformation. Et plus important encore, dans sa forme pure, elle est impersonnelle et totalement impartiale. Un exemple remarquable d'une personne qui manifeste cette qualité de metta à notre époque est Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. Vous remarquerez que chaque fois que Sa Sainteté se rend dans un endroit, des milliers de personnes viennent pour l'écouter ou simplement le voir. Il est à noter qu'une grande partie de ces personnes ne sont pas particulièrement des bouddhistes pratiquants. Je pense personnellement que bon nombre d'entre elles sont intuitivement attirées d'une manière qu'elles ne peuvent pleinement décrire ou comprendre. D'une certaine façon, il semble qu'il soit simplement important et inspirant d'être auprès d'une personne si agréable, chaleureuse, indulgente et optimiste. Les gens sentent que le Dalai Lama voit ce qui est bon en eux. Ils voient leur potentiel et souhaitent l'encourager. Et c'est une bénédiction extraordinaire. Ainsi, le Dalai Lama est un très bon exemple d'une personne qui incarne cette qualité. La plupart des personnes qui rencontrent ce simple moine, qu'elles soient premier ministre, de famille royale, enfant ou vieille dame dans la rue, toutes sentent qu'il leur souhaite vraiment du bonheur. La bonté, en tant que qualité spirituelle, voit ce qui est bon, elle encourage et bénit, et elle peut être développée sans limite pour chacun et pour tous. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres moines et nonnes beaucoup moins connus, ainsi que des laïcs pratiquants vivant encore dans le monde actuellement et qui ont développé la bonté à un degré extraordinaire et en partagent les bienfaits avec tous ceux qu'ils rencontrent. Dans le but de rendre ce sujet un peu plus pertinent, je voudrais poser à chacun de vous une question personnelle. Pensez un instant à la personne qui vous a touché le plus profondément dans cette vie. Ou bien, de quelle personne vous souvenez-vous toujours aujourd'hui avec joie et profonde gratitude? Je suppose que les personnes qui vous ont touché le plus profondément dans votre vie sont des personnes qui ont manifesté ou partagé cette qualité particulière avec vous d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui rayonnent et agissent à partir de leur cœur sont généralement ceux dont nous nous souvenons avec gratitude, avec un sourire et une sensation de chaleur dans le cœur. Ou bien peut-être que penser à eux fait monter des larmes de gratitude. Simplement penser à eux nous éclaire l'esprit. Considérant tout ceci, vous avez éventuellement une idée plus précise de ce qu'est cette qualité nommée metta. Poursuivons plus profondément. Que dit le Bouddha, notre refuge en tant que bouddhiste pratiquant, au sujet de metta? À l'intention des moines qui éprouvaient des difficultés à vivre confortablement dans la forêt du fait d'interférences avec des fantômes et des esprits malveillants, le Bouddha prononça le discours sur l'amour bienveillant et recommanda aux moines de réciter ce sutta fréquemment dans les différents lieux où ils résidaient en forêt. Après l'avoir fait, les moines réalisèrent que toutes les interférences désagréables avaient été rapidement dissipées. On comprend ainsi que contempler les avantages de metta et développer l'intention de cultiver cette qualité est une influence protectrice dans la vie, et ceci à la fois pour les êtres visibles et invisibles. Dans la tradition Theravada, beaucoup de moines, de nonnes et des laïcs récitent encore fréquemment de nos jours ce sutta à travers le monde. Le Bouddha a également enseigné à ses disciples qu'il était de leur devoir de faire rayonner la bonté dans toutes les directions, chaque jour, et en particulier vers le village dont ils dépendaient pour les aumônes de nourriture. Dans un autre sutta, le Bouddha dit précisément qu'il n'est pas de qualité plus propice à la renaissance céleste que la méditation sur la bonté. Personnellement, je suis convaincu que lorsque le Bouddha parle de cette manière, sa signification est littérale et non une métaphore artistique. Dans d'autres suttas encore, le Bouddha explique que malheureusement, la plupart des êtres du samsara ont pris renaissance dans des mondes inférieurs à celui des humains. À l'inverse, les royaumes des Brahmas, les plus hauts et les plus purs des royaumes de l'univers conditionné, sont habités par des êtres qui ont particulièrement cultivé cette qualité de bonté. Pour ceux qui sont ouverts à cet aspect de l'enseignement du Bouddha, ces propos suggèrent que nous faisons là référence à des causes et conditions très puissantes. Bon, d'accord, peut-être que metta est très puissante, mais nous sommes des pratiquants bouddhistes sérieux et nous ne cherchons pas à renaître dans quelques régions paradisiaques éloignées pour avoir à renaître encore et encore. Nous voulons être libérés. Alors je dirais que nous avons tous intérêt à cultiver significativement cette qualité de bonté dans notre pratique comme un outil qui va nous aider sur notre chemin de libération. Peut-être pas au niveau des anges parmi les plus élevés, mais plutôt en tant qu'être humain véritablement bienveillant. En étant honnête avec soi-même, la plupart d'entre nous admettront que nous avons encore du travail à faire. Dans le Sutta de l'Anguttara Nikaya, volume 1, numéro 182, le Bouddha, dans une conversation avec un brahmine, explique qu'il rayonne la bonté envers les personnes du village qui lui font l'aumône. Ayant fait ainsi, il irradie la bonté dans une seconde direction, une troisième, une quatrième direction, au-dessus et au-dessous, partout et alentour. Et il poursuit en disant au brahmine: j'imprègne le monde entier avec un cœur empli d'amour bienveillant, serein et sans aucune inimitié. Considérant que c'est le Bouddha qui parle ainsi, totalement libéré et souverain parmi les êtres pleinement éveillés, étant donné que lui aussi inclinait son esprit vers l'amour bienveillant, le faisant rayonner vers tous les êtres dans toutes les directions, même durant sa dernière existence, alors qu'il était déjà éveillé, Nous pouvons être confiants dans la nature saine et bénéfique de cette qualité de l'esprit. Ceci étant, beaucoup de personnes pourraient encore s'interroger. En tant que pratiquants bouddhistes à notre époque, devons-nous réellement développer metta? Eh bien, si vous êtes l'une de ces rares personnes nées avec cette qualité, déjà à l'œuvre pleinement dans l'esprit, alors peut-être vous n'avez pas à y accorder autant de temps. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que votre esprit est encore affecté par l'avidité et l'attachement, ainsi que par de la colère et de l'aversion ponctuelle et collante, alors il est essentiel de cultiver cette qualité. Un enseignant très réputé auprès duquel j'ai une fois séjourné et pratiqué en Thaïlande enseignait à ses moines qu'ils devaient vraiment pratiquer metta régulièrement, car cette pratique nettoie profondément les souillures de l'esprit. Elle a une influence pacificatrice, un pouvoir de sublimation. Et en fait, même pour les personnes naturellement emplies de cette qualité, apprendre à l'affirmer et à la cultiver davantage dans la concentration et la discipline de la méditation formelle est extrêmement bénéfique. Ajahn Passano, abbé du monastère d'Abayagiri à Redwood Valley en Californie, dans un discours donné à des laïcs à propos des Brahmaviharas, les qualités sublimes de l'esprit, a déclaré: Tout l'enseignement du Bouddha a pour objet de cultiver des qualités mentales afin d'obtenir le bonheur de l'esprit. Les Brahmaviharas sont un des principaux fondements du bonheur et peuvent ainsi poser les fondations pour l'ensemble de la pratique. Metta, l'amour bienveillant, est l'une de ces quatre qualités sublimes. De façon globale, le bonheur véritable, selon la voie bouddhiste, est basé sur le bien-être provenant d'une attitude généreuse et bienveillante, sur la libération du remords qui vient de l'observance d'une conduite vertueuse et sur des qualités mentales développées au travers de la méditation. Être généreux est une expression de la bonté envers soi-même et envers autrui, de même que l'abandon des actions nuisibles et malhabiles. Dans notre méditation, nous cultivons metta plus encore en la générant dans l'esprit en tant qu'émotion pure, puis en la développant, la raffinant et en la répandant de manière appliquée. Dans le même enseignement, après avoir décrit la progression des qualités qui conduisent à l'état de samadhi, Ajahn Passano paraphrase le processus avec cette déclaration pertinente. Nous voyons que le bonheur génère samadhi, alors que d'habitude c'est à l'inverse qu'on cherche à s'en approcher. Nous pensons souvent: si seulement je pouvais obtenir le bonheur en méditant, alors je serais heureux. Alors que ça devrait être: comment puis-je faire pour accéder au bonheur véritable afin que mon cœur soit à l'aise? Cultiver la bienveillance dans l'esprit, tout comme parler et agir sur la base d'un cœur empli de bonté, est une source majeure pour expérimenter le bien-être. Je voudrais parler plus précisément maintenant des raisons pour lesquelles metta est une composante utile dans notre pratique de méditation. Il semble que l'esprit des méditants actuels ne s'établisse pas facilement et ne demeure pas avec le souffle à chaque séance de méditation. La plupart des gens avec des vies occupées et compliquées se rendront compte qu'ils ont besoin d'une variété d'outils et de techniques afin d'établir leur esprit dans des états d'équilibre et de paix, en apprenant à utiliser ces méthodes ou techniques à différents moments et en fonction de ce qui semble approprié ou efficace. Lorsque nous devenons habiles à évoquer un objet de méditation tel que metta, nous pouvons alors l'appliquer de diverses manières dans notre pratique. Par exemple, si nous remarquons que l'esprit est obsédé par quelque chose de malhabile, de néfaste, nous pouvons décider de tourner consciemment notre esprit vers la pratique de la bonté. Nous pouvons appliquer metta afin de soustraire l'esprit de l'attirance envers un objet mental dangereux. Le développement de ce type de compétences peut nous faire gagner beaucoup de temps et nous soulager de beaucoup de souffrances inutiles. Bien sûr, devenir habile à générer à volonté la bonté dépend beaucoup de la pratique répétée. Mais cela en vaut la peine. Gardez aussi à l'esprit que la méditation de metta est très agréable. Le Bouddha a qualifié metta d'une des sublimes demeures du fait de ses caractéristiques plaisantes par nature. Je suis convaincu que nombre de personnes peuvent déjà reconnaître le potentiel de cette qualité, mais je suis également conscient que beaucoup peuvent manquer de confiance ou de compréhension quant à la façon de développer metta par une pratique répétée et disciplinée de la méditation. Un de mes principaux objectifs en produisant ce CD de méditation guidée a été de donner aux méditants des instructions claires, des encouragements et des exemples de méthodes et de techniques qui peuvent être développées afin qu'ils puissent se sentir plus confiants pour cultiver la pratique de metta. Dans la partie de ce CD dédiée à la bienveillance, j'ai offert plusieurs exemples de techniques qui sont clairement étiquetées. Dans chacune de ces méditations, des étapes progressives sont clairement expliquées et décrites à un rythme confortable et tranquille. Chaque méditation de metta est présentée d'une manière simple et encourageante. Ainsi, vous pouvez être confiant que par une pratique répétée, vous gagnerez certainement en habileté pour générer cette qualité dans votre esprit. Vous pouvez également être confiant que plus vous cultivez cette qualité au cours de sessions formelles de méditation, plus cette qualité débordera naturellement dans votre vie quotidienne. Cultiver metta développe la bienveillance et rend plus heureux. C'est l'expérience de nombreuses personnes. Dans les méditations guidées que j'ai présentées, nous commençons par apprendre comment conserver les pensées bienveillantes et pures et les sentiments de bonté dirigés vers nous-mêmes. Nous faisons cela en générant simplement une sensation de chaleur et de douceur au niveau du cœur et en répétant des phrases simples sur le rythme de la respiration pour nous remémorer notre intention. Certaines personnes peuvent avoir une résistance au début, mais en fait c'est une étape essentielle pour cultiver cette qualité de metta. Parce que c'est depuis notre cœur que nous devons apprendre à générer cette qualité vers autrui. Il est nécessaire de remplir notre cœur avec metta, tout d'abord, de sorte qu'elle puisse s'écouler dans toutes les directions. Personne ne devrait penser qu'éprouver la bienveillance envers soi-même est égoïste. Je dirais que ce n'est que lorsque nous savons vraiment prendre soin de nous-mêmes que nous sommes à même de prendre véritablement soin des autres. Mais malheureusement, et aussi un peu étrangement, de nombreuses personnes ont pris l'habitude de se juger et de se critiquer systématiquement et sévèrement, plutôt que de permettre à cette qualité de metta de se développer en eux. Cela peut être très épuisant et douloureux, mais il est important d'être optimiste et de comprendre que ce genre d'habitude mentale peut assurément être rééquilibré. Lorsque nous développons la bonté envers nous-mêmes, ce n'est pas que nous fermons les yeux sur nos fautes, mais plutôt que nous apprenons à les voir avec une perspective plus avisée et bienveillante. Nous ne rejetons pas notre bonté innée, nous ne refusons pas de voir notre potentiel, nous devenons beaucoup plus disposés à abandonner les jugements et les anciennes perceptions et à voir le potentiel de chaque nouvelle journée, de chaque nouvel instant. Nous apprenons à travailler patiemment afin de surmonter nos fautes au lieu de nous discréditer, d'abandonner avant même d'avoir essayé. Si vous pouvez commencer à reconnaître que vous êtes aussi de ceux qui souffrent dans le monde, que vous avez vos propres difficultés, vos propres luttes, vos propres souffrances, ainsi que vos espoirs et vos aspirations à un bonheur durable, établir cette qualité envers vous-même n'est pas vraiment si difficile. Une fois que vous reconnaissez vraiment et profondément la validité de votre désir de bonheur, avec un peu d'entraînement et d'encouragement, votre cœur peut devenir le lieu où vous puisez bénédiction et bienveillance. Il peut ainsi devenir une source de profonde nourriture pour votre voyage spirituel. Lorsque nous avons suffisamment d'assurance pour générer cette qualité de metta et imprégner notre corps et notre esprit, nous pouvons alors rayonner cette qualité envers autrui. La méditation guidée vous accompagnera dans ces étapes. Au début, nous générons cette qualité envers ceux envers qui nous pouvons facilement ressentir de la bienveillance. Nos amis et nos connaissances proches ou les membres de notre famille. Il est important ici de ne pas amener à l'esprit une personne envers laquelle nous sentons de l'attirance sexuelle. Ça n'est pas que nous ne devrions pas éprouver de bonté envers ces personnes également, c'est que si nous pensons à ces personnes durant notre méditation, celle-ci sera rapidement orientée dans le domaine de la sensualité. Et c'est l'amour pur que nous visons durant une méditation formelle sur la bonté. Essayez de rester avec des personnes envers lesquelles vous éprouvez un type de bonté paternelle, maternelle ou fraternelle. Devenus habiles à faire cela, nous pouvons passer à un plus grand nombre de personnes en essayant simplement de penser à des personnes envers lesquelles nous ne ressentons rien de particulier. Les personnes anonymes qui passent dans la rue, que nous croisons dans l'ascenseur ou dans les couloirs. Ce à quoi nous nous entraînons, c'est à rendre notre bonté plus libre, moins conditionnée. Nous sommes littéralement en train d'apprendre à assouplir les muscles de notre cœur, esprit, afin que cette pure émotion de bienveillance grandisse et se renforce et que nous soyons à même d'inclure de plus en plus de personnes. Ce sont les premières étapes du développement de l'amour bienveillant. Après avoir développé une certaine habileté dans cette méditation, nous pouvons passer à des stades plus avancés. Vous avez le choix entre plusieurs méditations guidées. À chaque fois, vous pourrez choisir de mettre fin à la méditation après les premières étapes ou de poursuivre jusqu'aux étapes ultérieures. La pratique initiale pour développer de la bonté envers soi-même dure 30 minutes. Poursuivre pour inclure quelques personnes envers lesquelles il vous est facile et naturel de ressentir de la bonté, puis les personnes envers lesquelles vos sentiments sont plus neutres, dure 20 minutes supplémentaires. Le stade plus avancé couvre les 20 minutes suivantes. Ce stade avancé est très semblable au précédent. Nous essayons d'inclure un plus grand nombre de personnes neutres et poursuivons en développant la bonté envers la catégorie de personnes envers lesquelles il nous est encore difficile d'éprouver de la bonté. Cela permet d'inclure des personnes qui nous ont fait du mal dans le passé ou des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne nous souhaitent pas de bonne chance dans la vie. Ou celles encore que nous ne connaissons pas, mais dont nous avons entendu dire ou dont nous soupçonnons qu'elles aient causé des préjudices graves à autrui. Nous concluons toutes les méditations en revenant à la perception de nous-mêmes et en nous souhaitant le bien-être. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'urgence à passer à ces pratiques plus avancées. Il est recommandé de prendre le temps d'établir solidement les étapes initiales avant de passer aux étapes plus délicates. La croissance de cette émotion de pure bonté est nécessairement progressive. Il faut du temps pour générer de nouvelles habitudes et encore plus pour les approfondir. Il est donc tout à fait adéquat d'arrêter la méditation guidée après la première demi-heure, de répéter la pratique des étapes initiales encore et encore sur une longue période avant d'inclure les 20 dernières minutes. Allez à votre propre rythme, un rythme qui vous semble naturel. La dernière étape, le développement de la bienveillance envers des personnes nuisibles ou difficiles, peut constituer un pas difficile à franchir dans le développement de l'amour bienveillant. Mais il est important de comprendre que plus notre esprit s'imprègne de cette qualité, plus nous nous sentirons rayonnants et heureux. Il est également important de comprendre que lorsque nous générons cette qualité de bonté envers les personnes qui nous ont fait du mal, ou qui ont nui à d'autres, nous ne fermons pas les yeux sur les actes inappropriés qu'elles pourraient avoir commis. Nous souhaitons simplement qu'elles puissent se sentir bien et heureuses. Il pourrait être utile de réfléchir ici à ce que nous entendons par ces mots « bien » et « heureuse ». Si ces personnes soi-disant « difficiles » se sentaient bien et heureuses, probablement elles abandonneraient leur comportement maladroit. Car les gens cruels ou mesquins ne se sentent ni bien ni heureux. Alors, quand nous faisons ce simple souhait, nous souhaitons en fait à ces personnes qu'elles puissent apprendre à devenir bonnes et bienveillantes en comprenant ce qui pourrait rendre possible pour elles de se sentir bien et véritablement heureuses. Au cours de la méditation, nous ne cherchons cependant pas à penser à ce que ces personnes difficiles devraient abandonner. Faire ainsi risquerait d'éveiller des émotions ou des attitudes maladroites, comme par exemple se transformer en moralisateur, ce qui n'est pas un aspect de la bienveillance. Il n'existe pas de chair pour l'enseignement de la méditation sur la bienveillance, ni de solution toute faite. Nous n'avons pas non plus à nous fixer des échéances. Le moment où ces gens abandonneront leurs habitudes malhabiles ne nous concerne pas. Durant la méditation sur la bonté, nous cherchons simplement et sincèrement à souhaiter le bien-être à tous les êtres et nous pratiquons afin d'établir cette intention pure dans notre cœur tout d'abord. Bien sûr, il est aussi important de comprendre que lorsque nous cherchons à faire grandir notre amour pour inclure les personnes plus neutres et plus difficiles, ce n'est pas au détriment de notre intelligence ou d'une sage discrimination. Dans notre vie quotidienne, nous devons rester prudents et circonspects vis-à-vis de ceux avec qui nous nous associons ou dont nous nous rapprochons. Même si nous n'aimons pas ou si nous n'avons pas confiance en quelqu'un, nous pouvons néanmoins lui souhaiter du bonheur, et c'est en fait un acte de bonté envers nous-mêmes. Après avoir appris à générer la bonté envers tous les êtres, nous pouvons devenir beaucoup, beaucoup plus heureux. Car ce faisant, nous nous libérons du poids de la colère et des rancunes. Bien sûr, il y a des personnes qui semblent se réjouir d'être rancuniers. Mais le bonheur étroit, mesquin qui en découle, est pâle en comparaison du bonheur profond et vaste qui vient d'un cœur nourri de bonté. Il y a potentiellement de nombreux avantages à cultiver cette pratique. Je vais donner un exemple simple de ma propre pratique. Il y a plusieurs années, un de mes enseignants en Thaïlande, Ajahn Anand, un des principaux disciples d'Ajahn Chah, m'a encouragé à commencer chaque méditation assise par 5 minutes de pratique sur l'amour bienveillant. J'ai vite remarqué que lorsque je faisais cela, il y avait moins de douleurs physiques et que les obstacles habituels à la tranquillité étaient moins grossiers. Désormais, avec gratitude envers Ajahn Anand, j'ai intégré cela à ma pratique quotidienne. Je voudrais maintenant que nous examinions les avantages du développement de la bienveillance dans le domaine plus terre à terre, mais peut-être tout aussi important, de la psychologie humaine. Développer cette qualité de bonté pourra certainement aider les méditants à guérir des différentes blessures psychologiques qui peuvent affecter les êtres humains. Bien que metta soit ultimement une qualité impersonnelle, elle a un puissant effet de guérison sur les gens qui la cultivent, leur permettant de se sentir plus unifiés et véritablement humains. Beaucoup de blessures psychologiques proviennent d'expériences qui nous ont laissé un sentiment de maltraitance, de négligence ou de manque d'amour. Mais lorsqu'une personne réussit à développer un cœur empli de bonté, ces sentiments pourront s'élever, guérir et tout simplement disparaître. C'est un des avantages très agréables et utiles qui peut découler de cette pratique. Agréable, car il peut atténuer ou réduire certaines souffrances, et utile, car une bonne santé mentale est la meilleure base pour la pratique spirituelle. Considérons maintenant la bonté en termes de support de méditation. Quand on parle de metta en tant que méthode de méditation cultivée par les bouddhistes, essentiellement ce dont nous parlons est un type de concentration ou samadhi. Metta commence par des intentions, des pensées aimantes et des sentiments d'amour. Puis lorsqu'elle devient plus raffinée et puissante, cette qualité a le pouvoir de rassembler l'esprit en lui-même d'une manière droite et saine. Tous les méditants peuvent développer une concentration plus profonde en pratiquant régulièrement avec des supports de méditation, tels que metta. En tant que pratiquant bouddhiste, il est essentiel de comprendre que c'est l'intégrité et la droiture de samadhi qui peut nous donner le centre de clarté spacieuse depuis lequel on peut voir les choses un peu moins en termes de soi. Un esprit clair et calme est la meilleure base pour le développement de la sagesse ou pour s'engager dans une contemplation profonde. Apprendre à recueillir l'esprit dans les états sains de concentration est l'un des principaux objectifs de notre pratique de la méditation. Dans le même temps, lorsque l'esprit est clarifié et fortifié par une émotion saine, profondément concentrée, nous aurons tendance à faire de meilleurs choix dans nos vies. Choix qui procurent des avantages à nous-mêmes et à autrui. Dans les premières étapes de notre pratique, notre metta pourrait ne pas être si concentré, mais la puissance et la vertu de cette émotion sublime est telle que même un peu de metta peut faire une grande différence dans nos vies. Si vous pouviez devenir habile à générer une attitude mentale de bonté véritable envers vous-même, vous pourriez alors l'emporter partout où vous allez dans le monde. Une fois que vous avez cultivé metta, quand vous êtes seul ou confus, vous pouvez être bon pour vous-même. Si quelqu'un est malveillant envers vous, vous pouvez lui pardonner rapidement et facilement et rester bon envers vous-même. Quand le monde extérieur semble dur et terriblement impersonnel, vous pouvez être un refuge chaleureux pour vous-même. En établissant un centre harmonieux au cœur de votre vie, le monde entier semble soudain beaucoup moins fou et menaçant. Cultiver un cœur empreint de bonté peut être d'une très grande aide pour maintenir un sentiment de bien-être. Pour terminer cet exposé, je voudrais parler un peu plus en détail de la série de méditations guidées proposée dans la section Metta de ce CD, de sorte que vous ayez une meilleure idée de ce qui a été présenté ici pour votre exploration. Certains méditants obtiennent de meilleurs résultats avec des techniques très simples et répétitives. Avec ceci à l'esprit, j'ai présenté une pratique de metta qui utilise la répétition fréquente de phrases visant à stimuler un sentiment chaleureux de metta. Nous commençons par ce désir pour nous-mêmes, puis en utilisant les mêmes phrases, nous accueillons dans notre esprit d'autres personnes et différentes classes d'êtres. Cette méditation de metta est intitulée « Développer l'amour bienveillant focalisé sur le cœur ». Certaines personnes ont un esprit plutôt visuel. Pour cette raison, j'ai également présenté plusieurs pratiques de metta basées sur la visualisation. L'une invite à visualiser un lotus dans le cœur en imaginant sa floraison, puis en rayonnant de bonté envers diverses catégories d'êtres sous la forme d'une lumière dorée. Dans cette méditation, nous visons toujours à générer un sentiment de bonté chaleureuse dans le cœur et nous utilisons une approche visuelle pour stimuler ce processus. Cette méditation s'intitule « Visualisation du lotus ». Dans une autre pratique, on visualise comment intégrer certaines qualités du Bouddha. C'est une remémoration des qualités du Bouddha. Je guide le méditant dans une visualisation où l'on rend hommage et où l'on fait des offrandes au Bouddha qui vient d'accéder à l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Dans cette méditation, on est encouragé à considérer la présence rayonnante et aimante du Bouddha dans un monde de bonté avant de tourner son esprit vers metta. C'est un puissant moyen pour donner le ton ou la résonance pour la pratique de metta. Parfois, ouvrir son cœur avec foi et appréciation peut être une bonne façon d'incliner l'esprit à la bienveillance. De même, le développement d'un cœur bienveillant permet d'approfondir et de renforcer la foi. Ces qualités de cœur se soutiennent mutuellement. De façon similaire, il y a une méditation de metta où vous serez guidé pour retrouver et rendre hommage à Amma Pajapati, la première bhikkhuni. Cette méditation combine la recollection des qualités de la sangha avec la pratique de metta. Dans cette méditation, Maha Pajapati Bhikkhuni médite assise sous un vieux banyan, accompagnée de plusieurs autres bhikkhuni, rayonnant la bonté envers le monde entier. Inspirés par leur exemple, nous tournons alors nos esprits vers metta. Chaque méditation est clairement intitulée. Je suggère donc d'explorer celles qui vous paraissent susceptibles de vous apporter les meilleurs résultats. Il suffit de les essayer et de voir comment elles opèrent. Si vous n'êtes pas familier avec une méthode particulière, il peut être néanmoins intéressant de s'y appliquer à plusieurs reprises avant de passer à une autre. C'est une façon d'essayer avec sincérité. Après avoir exploré ces enregistrements à votre propre rythme, une fois que vous aurez trouvé une méthode qui semble fonctionner pour vous, essayez de rester avec cette méthode particulière d'une manière disciplinée pendant un certain temps. Puis lorsque vous aurez intégré la méthode, alors abandonnez les méditations guidées et pratiquez par vous-même. Au début, certaines personnes trouveront qu'elles peuvent ressentir des réactions après avoir développé la bonté profondément dans leur cœur. C'est rare, mais parfois des méditants peuvent se sentir un peu irrités après une pratique de metta. De même, de vieilles douleurs et des souvenirs douloureux peuvent parfois faire irruption dans l'esprit pendant ou après une séance de méditation de metta. Si cela vous arrive, ne perdez pas courage. Je vous invite à voir ce genre d'expérience comme faisant partie d'un processus de purification ou de guérison. Parfois, la méditation de metta fait bouger les choses qui étaient comme coincées. Essayez de voir metta comme une brise fraîche et forte soufflant la poussière de l'esprit, confiant qu'avec le temps, la tendance sera vers davantage de bonheur, de contentement et de luminosité. D'une manière tout aussi importante, si des souvenirs douloureux surviennent, essayez de ne pas vous perdre dans ces histoires du passé, comme « pourquoi cela n'aurait pas dû se passer ainsi ?» ou « comment les choses auraient dû être ?» Rappelez-vous qu'Ajahn Chah avait l'habitude de dire que l'une des choses les plus importantes à apprendre dans notre pratique est le lâcher-prise. Il avait coutume de dire « si ça n'est pas bon, laissez mourir. Si cela ne meurt pas, alors faites que cela soit bon. Le passé est passé, laissez-le là où il est. Emplissez le présent avec la présence attentive et la bonté. » Et enfin, je tiens à vous souhaiter à tous plein de succès dans votre pratique de méditation de metta, en gardant à l'esprit que le succès en tant que méditant ne signifie pas nécessairement de méditer tout le temps de façon remarquable et dans le bonheur. Ce que nous visons dans notre pratique avec tranquillité et joie, c'est une croissance de la pleine conscience, une croissance de la patience, une croissance de la sagesse et aussi une croissance de la discipline et de l'engagement. Alors, puissions-nous tous continuer à croître avec ces qualités belles et bénéfiques. Soyez bien.